dirige dans sa parole ce soir à travers les textes qu'on va lire. Seigneur, on vient devant toi pour t'adorer premièrement parce que tu es un grand Dieu. Tu es notre Père Dieu et tu nous enseignes continuellement. Tu nous fais vivre, Seigneur, ta présence à tous les jours et tu nous accompagnes. On est vraiment reconnaissant que de pouvoir avoir cette relation-là avec toi, que de pouvoir te connaître. Merci pour ta parole, Dieu. Ce soir, on veut prendre le temps d'ouvrir ta parole. On veut écouter ce que tu as à nous dire. On veut prendre cette parole, la serrer dans nos cœurs pour ne plus pécher, Seigneur, pour suivre la voie que tu veux que l'on suive et pour avoir une vie aussi en abondance parce que c'est ce que tu désires, Seigneur. C'est ce que tu es venu nous apporter aussi. C'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te prie ces choses. Amen. OK. Ce matin, bon, pour ceux qui étaient là, on avait fait l'introduction du livre d'Esther. Et puis, un peu comme je vous disais ce matin, avant de m'embarquer, j'avais pas vu venir le chapitre 1. On a vu ce matin dans le chapitre 1 d'Esther, le plus vieux conflit du monde qui existe entre l'homme et la femme dès la chute est arrivé, un conflit qui est arrivé, qui était la conséquence directe du péché, puis on voyait que le péché a affecté directement, évidemment, les relations, la relation avec Dieu, puis la relation même aussi entre Adam et Ève. Et dans cette continuité-là, on parlait du royaume de Perse qui était très puissant, puis à l'intérieur même du royaume est arrivé un conflit entre le roi et la reine. Et là, avec la peur qu'il y a eu des hommes, avec le désir, la peur de voir que les femmes pourraient se soulever finalement contre leur mari, puis bon, il y a eu un édit. Et ce soir, dans cette optique-là, parce que ce matin, je présentais un peu le conflit. Je présentais la guerre, hein? On présentait la Perse comme un peuple guerrier, un peuple, là, quand que les archers, comme je disais ce matin, de Perse décidaient de lancer des flèches, ça obscurcissait le soleil. C'était une armée très nombreuse. Mais à l'intérieur même de cette guerre qui pouvait exister entre les nations, il y a eu une guerre, si je peux dire, entre les sexes, entre Assuérus et Vasti. Et puis, fait que si on a présenté la guerre ce matin, ce soir, je vais présenter la paix. Parce que, je vais juste vous citer quelques textes. Hein? 1 Corinthiens 7, 15, la dernière partie, ça dit, « Dieu nous a appelés à vivre en paix. » Romains 12, 18, « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous, avec tous les hommes. » 2 Corinthiens 13, 11, au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Le désir de Dieu, c'est qu'on vive en paix et non qu'on soit en guerre. Et s'il y a eu une conséquence directe au péché qui était la guerre ou un conflit qui est né entre l'homme et la femme à ce moment-là, Dieu veut qu'on vive en paix, Dieu veut qu'on ait cette joie-là dans la relation conjugale. Je pense que ce soir, ça va être encore dirigé un peu encore vers la relation conjugale puisqu'on est parti sur cette direction-là ce matin entre le roi et sa femme. Mais en même temps, je pense que qui que nous soyons, on est concerné par l'amour conjugal, présentons-le comme ça, qu'on soit célibataire, peut-être qu'un jour on aspire à se marier, peut-être qu'on est veuf ou veuve, les Écritures nous donnent des recommandations aussi pour aider les jeunes hommes ou les jeunes femmes, et si on est en couple, mais ça s'applique aussi à nous. Alors, la relation conjugale est une chose que Dieu désire qu'il y ait de la paix. Je vais être très transparent avec vous ce soir. Il existe dans mon propre foyer une guerre. La guerre du thermostat. Hein? Je ne sais pas si vous avez vu l'annonce à la télévision. Maurice, il fait chaud! Maurice, il fait frais! On entend juste la femme. C'est pas très positif pour la femme, hein? Mais là, c'est pas aussi mauvais que ça dans mon foyer, là. Mais il fait froid, il fait chaud. Puis là, à chaque fois qu'on passe, on a juste un thermostat, hein, il est central. Fait que quand je passe à côté, il est à 19. Moi, je me sens à 18. Là, ma femme passe à côté, elle me sent à 19. Là, je repasse à côté, je me sens à 18. Là, je sais pas combien de fois qu'il peut changer par jour le thermostat, mais il y a la guerre du thermostat chez nous. Mais ça se limite pas mal à ça, nos guerres, heureusement. Et Dieu veut qu'on vive en paix. Puis bon, des fois, je dis, c'est correct, paye-toi un degré. C'est moi qui paye. Mais Dieu veut qu'on vive en paix. Dieu veut qu'on ait cette relation-là ensemble, qui soit agréable. Et puis... ma femme, je veux juste vous citer différentes choses. À un moment donné, ma femme, elle a mis sur le frigidaire deux feuilles. Je ne sais pas si c'était à mon intention, mais c'est drôle. Hein? C'est 27 choses à ne pas dire à votre conjoint et 37 choses à dire à votre conjoint. Elle a mis ça sur le frigidaire. Et là, je me suis dit, bon, j'ai peut-être des choses à apprendre à travers ça. Je vous en cite quelques-unes. Puis, en même temps, ben, sorti du contexte, les phrases que je vous dis ont plus ou moins de portée profonde. C'est-à-dire qu'on peut en rire, mais en même temps, dans une situation conjugale, ces phrases-là peuvent ressortir dans un contexte bien précis. Hein? Par exemple, des phrases à ne pas dire « je te l'avais dit ». Bien, tu es bien comme ma mère. Ou bien, tu es toujours de mauvaise humeur. C'est ta faute. Ou par exemple, bon, il y en a 27, je fais juste en prendre quelque chose, quelques-uns ici et là. Ne peux-tu pas être plus responsable? Pourquoi ne m'écoutes-tu jamais? Des phrases comme ça qui peuvent ressortir, juste des mini-phrases qui peuvent finalement alimenter la guerre qui pourrait y exister. 37 choses à dire. Je me suis fait des petites cartes. Puis là, j'ai dit à ma femme une fois de temps en temps, « Bon travail! » Et faut véhiculer de l'émotion, je pense, aussi avec. Pour que ça soit efficace, hein? Pour que ça sonne un peu paix, là. « Tu es merveilleuse! » « C'était vraiment super! » »« Tu es splendide aujourd'hui! » Je pense qu'il faut y penser aussi. « Merci de m'aimer! »« Prie pour moi! » j'aimerais être un meilleur partenaire. Il y a le pouvoir des mots, le pouvoir des phrases qu'on peut dire à notre conjoint ou notre conjointe va faire que la chose soit va désamorcer ou soit qu'elle va s'envenimer. Mais Dieu nous appelle à vivre en paix. Et on voyait ce matin une situation entre le roi et Vasti qui était... Bon, il n'y a pas eu d'argumentation, on n'entend pas le roi parler avec sa femme. Mais dans son cœur, cet homme-là a exigé de quoi à sa femme, avec beaucoup d'insensibilité, avec un grand manque de sagesse, comme je disais ce matin, en plaçant sa femme entre l'arbre et l'écorce. Puis finalement, qu'est-ce que sa femme a fait? Bien, évidemment, a déplu au roi. Et puis ça a eu de grandes conséquences. On a besoin que si les Écritures nous disent, comme je disais avec les juges l'autre fois, les Écritures nous enseignent le principe biblique que si on veut avoir la victoire sur le péché, qu'on va renoncer à une chose pour faire la bonne chose. Ou si on va renoncer au mal pour faire le bien. Si j'arrête de dire ces 27 choses-là, ne plus dire, je veux dire le bien aussi, je veux rechercher la paix. Et ce roi-là, ce matin, dans son manque de sagesse, dans une situation où lui-même était peut-être enivré, a pris une décision, a demandé quelque chose à sa femme, et puisque sa femme ne lui a pas obéi, mais dans sa grande colère, il a posé des actions qui ne pouvaient plus maintenant être reculées. Et il s'est placé lui-même les pieds dans les plats, et en plaçant sa femme aussi, finalement, il s'est séparé de sa femme, et à cause de sa colère, à cause de cette requête-là qu'il avait demandée. Alors, on a vu la guerre ce matin. La paix se trouve avec le bien que Dieu nous donne. Les Écritures sont claires dans la relation, mais dans toute forme de relation. On peut sortir des textes, comme je vous disais tantôt, de Corinthiens 13. C'est pas nécessairement directement du contexte conjugal, mais ce que les relations que l'on a entre frères et sœurs, c'est les mêmes vérités qui vont s'appliquer aussi avec ma femme, avec mon conjoint, ma conjointe. Dieu veut qu'on soit en paix. Ce soir, j'aimerais qu'on voit deux choses. Et puis, j'aimerais, plusieurs d'entre nous, on connaît les Écritures, on a une expérience de vie, puis je vais faire un peu comme d'habitude les dimanches soirs. Je vais vous poser des questions, puis on va s'enseigner ensemble les uns les autres avec des textes qu'on va regarder. Puis les deux choses que j'aimerais voir ce soir, c'est premièrement l'égalité qu'il y a entre l'homme et la femme qui est donnée à travers les Écritures. On ne doit pas partir avec un concept que soit l'homme qui est supérieur à la femme qui, à cause de cela, doit être soumise. Et peut-être que c'est des choses qu'on comprend déjà, qu'on sait déjà, mais en même temps, rafraîchissons-nous la mémoire et puis en même temps, soyons nous-mêmes aussi des gens qui connaissons la vérité puis qui pourront avoir même une influence aussi sur notre société. Parce que la société fonctionne vraiment à l'envers, elle fonctionne vraiment dans la nature pécheresse comme ce que Dieu l'a révélé. Les désirs de la femme vont se porter vers le mari, puis le mari, lui, va dominer sur la femme. Et il y a cette guerre-là qui existe encore aujourd'hui, Puis comme je disais ce matin, c'est certainement pas la volonté de Dieu que cette guerre-là se continue aussi dans nos propres relations. Tournons dans Genèse 2. Commençons avec ce que Dieu dit. Deux textes assez rapides. Un texte que vous connaissez déjà probablement très bien, de Genèse 2. Je vous pose déjà la question, puis après ça, on va le lire. Quelles sont les vérités révélées ici pour le couple? Dans le texte qu'on va lire, c'est quoi les vérités qui sont révélées? Et pourquoi est-ce que Dieu a fait les choses? Pourquoi est-ce que Dieu a fait les choses ainsi? On va lire le texte, puis après ça, on va répondre. Un volontaire qui voudrait lire Genèse 2, versets 18 à 22. Serge. Jusqu'au verset... Tu continues, s'il te plaît, jusqu'au verset 25. J'ai dit 22, mais c'est 25. OK. On a la création. On a vraiment le point de départ de la création de l'homme et la femme. On est retourné là ce soir parce que les autres textes que Jésus, par exemple, peut citer dans les Évangiles, que Paul peut citer dans Éphésiens, que d'autres auteurs peuvent citer, ils vont se référer justement à Genèse. Là. C'est quoi les vérités qui nous sont révélées ici concernant l'homme, concernant la femme et concernant l'union qu'ils ont ensemble? Quels sont les différents éléments qu'on peut ressortir à travers ça? Oui, Danny. Oui. Oui. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu a créé Adam et puis il avait créé tous les animaux. Et Moïse, Adam a fait passer ces animaux-là et puis il n'a pas vu d'une personne qui lui ressemblait. Puis Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit ça. C'est intéressant, hein, dans le récit de la création, continuellement on voit Dieu vit et cela était bon, Dieu vit et cela était bon. Et c'est le seul moment où c'est que dans le récit de la création que Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'était pas complet à ce moment-là. Quoi d'autre? D'autres vérités qui nous sont révélées? Oui, Richard. Oui. Oui. Qu'est-ce que Dieu voulait en créant une aide semblable? Dans cette expression-là, une aide semblable à lui, c'est quoi que Dieu faisait avec Ève en l'apportant? Quoi, Mario? Une complicité. Oui. Comment? Une communion, une relation entre les deux, entre l'homme et la femme. Oui, ils se complétaient l'un l'autre. Exactement. L'homme n'était pas complet sans la femme. Et Dieu n'a pas créé une aide qui était différente. Il n'a pas créé quelqu'un qui allait devenir soit quelqu'un d'inférieur ou un esclave ou quoi que ce soit. C'était quelqu'un de semblable à lui, qui lui ressemblait, qui était complet, qu'il y avait une complémentarité, qu'il y avait une relation entre les deux. Et quoi d'autre aussi? Oui, il y avait Claudette après ça, Danny. Oui. Oui. Dieu aurait pu prendre Ève à partir de la poussière comme il a fait Adam, Puis c'est pas ce qu'il a fait. Il a pris une côte d'Adam, puis il a créé Ève. C'est quoi que Dieu nous enseigne à travers ce modèle de création de Ève à travers Adam? Qui est semblable à lui. L'unité. Quoi d'autre? Une seule chair. Comment, Mario? Elle fait partie de soi. Exactement. Alors, Ève a été créée de l'homme. On l'appelle Isha. Elle est sortie de l'homme. Elle a été créée de l'homme. Et c'est oui, Danny, tu allais dire quelque chose? OK. Et puis, quand Adam a vu Ève, pour lui, c'était clair. Le verset 23, et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. » C'est pourquoi? Elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi? C'est pourquoi quoi? L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et qu'est-ce qui arrive? Ils deviendront une seule chair. Est-ce que les Écritures enseignent l'égalité entre l'homme et la femme? Oui. L'homme et la femme sont égaux. La femme a été créée à partir de l'homme. Mais il y avait certainement aussi un plan derrière ça. Bien, les Écritures nous le disent aussi plus loin. Évidemment, Adam a été créé le premier. Ève ensuite. Mais ça n'empêche pas le fait qu'ils sont égaux. Alors, on a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. On a dit aussi que Ève devait être une être semblable à Adam. On a dit que Ève était os de mes os, chair de ma chair. Et puis Dieu a fait la femme justement pour que l'homme et la femme s'attachent ensemble et deviennent une seule chair. Ce matin, je citais 1 Corinthiens 11, 11, mais j'aimerais qu'on le relise en ajoutant aussi le verset 12 à ça. Quelqu'un qui veut lire les versets 11 et 12, s'il vous plaît, de 1 Corinthiens 11. Versets 11 et 12. Personne qui veut lire ça? OK, Rachel, en arrière. OK, comment ces versets-là nous enseignent l'égalité qu'il y a entre l'homme et la femme? Qu'est-ce que ça nous dit, ces versets-là? Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Verset 12, car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. Qu'est-ce que ces versets-là nous enseignent? OK. Une belle démonstration de complémentarité. On a besoin d'un homme et d'une femme pour créer un autre humain. Oui, exactement. La femme a été créée à partir de l'homme. Mais ce que le verset 12 nous dit, c'est de la même façon, l'homme ne peut pas exister sans la femme. Il va naître d'une mère à quelque part à un moment donné. Et alors, les deux sont indispensables à l'ordre créationnel dans ce que Dieu a donné. Et il y a une égalité évidente que Dieu nous enseigne entre l'homme et la femme. Et on a besoin de se souvenir de ces vérités-là pour après ça partir avec les rôles que Dieu nous assigne à chacun d'entre nous. Le rôle que Dieu va donner à l'homme, le rôle que Dieu va donner à la femme. On va partir avec l'idée en comprenant que les Écritures nous enseignent que l'homme et la femme sont égaux. Sont interdépendants, exactement. Oui, c'est ça, ils ont besoin l'un de l'autre. Et Dieu l'a révélé à travers même la façon qu'il a créé l'homme et la femme, et aussi, il nous le répète encore, même la façon que Dieu a voulu que le genre humain se reproduise. Maintenant, c'est quoi nos rôles? La solution au plus vieux conflit du monde, c'est... je t'invite à tourner dans 1 Pierre. 1 Pierre, commençons avec 1 Pierre 3. Commençons avec le rôle de la femme. Et encore là, je lis les Écritures avec vous. Okay? On découvre les Écritures ensemble. Je ne me présente pas du tout comme le spécialiste des rôles. Là. Mais on le découvre ensemble. On découvre les Écritures ensemble. La femme, on voyait ce matin dans Genèse 3, verset 16, « Tes désirs se porteront vers ton mari. » La nature pécheresse de la femme d'aller vers l'homme et de prendre son rôle, de prendre sa responsabilité, de prendre son leadership en main et de prendre les choses en main. Et comme je disais tantôt, si on part du principe avec l'idée qu'on arrête quelque chose, le mal, pour faire le bien, mais partons avec le principe qu'il faut que maintenant, si on prend le rôle de la femme, de voir que la femme va reconnaître, disons, une tendance qui pourrait être vers ça, ce que Dieu nous a révélé sur notre personne, et le rôle que Dieu nous donne. Alors, on a à abandonner une tendance et assumer, de prendre son rôle, de l'assumer, puis de respecter celui de l'autre aussi. OK, 1 Pierre 3, les versets 1 à 4. Commençons avec ces versets-là. Un volontaire qui veut me lire les 4 premiers versets de 1 Pierre 3. OK, Richard. OK, arrêtons là pour l'instant. Quelle est la responsabilité de la femme face à son mari? Comment? Être soumise? OK. Comment cela, est-ce que ça se met en pratique? Comment la soumission se met en pratique? Est-ce que la soumission est un... Mais vas-y, Danny. Ouais. Oui. Oui. OK. Et si, OK, et je prends l'élément que tu me dis d'avoir une bonne relation avec son mari pour se soumettre aussi à son mari. C'est un excellent point de départ et quelque chose qui favorise beaucoup la paix dans un couple. S'il y a une bonne relation, que l'homme a bien transmis aussi quelle est sa mission, quelle est le... sa compréhension de son rôle aussi dans le couple, et la femme va se soumettre, j'imagine, d'une façon plus ou moins facile. Pourquoi je dis ça? Parce que le mari pourrait ne pas dire sa mission. Par exemple, je n'aime pas l'expression que tu dis. Si le mari est un mauvais mari, quelle responsabilité a la femme face à son mari? La même responsabilité. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? OK, je retiens ton point, Jean-Pierre, juste avant. Qu'est-ce que tu as dit, Christina? Si son mari est mauvais, elle continue de persévérer, d'avancer, ses actions vont toucher son mari. Ce que tu dis. Jean-Pierre, je disais, pourquoi est-ce qu'elle devrait se soumettre quand même? Parce que les Écritures le disent. OK? Tu es en train de voir le verset 1. Femme, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole et soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Tantôt, je vous posais la question, comment la soumission se met en pratique? Les Écritures nous disent que la soumission peut se mettre en pratique, en action et même sans parole. Même cette soumission-là, comme un peu c'est le commentaire de Christina, la femme qui continue de faire ce que Dieu lui demande, mais elle peut gagner son mari comme ça. Est-ce que tu allais dire quelque chose, Jean-Pierre? J'ai entendu. OK. Ouais. Ouais. Ça pourrait indiquer à l'homme son comportement si elle respecte son rôle puis elle continue dans son rôle même si son mari ne fait pas le sien. OK? Oui, Claudette. Oui. Oui. Oui, c'est très bien. Parce que la femme va premièrement montrer de la soumission face au Seigneur et par la suite aussi face à son mari. Et c'est ce qui va la motiver à continuer. Comment changer son conjoint ou sa conjointe de façon la plus efficace possible? Hein? Comment? Par la prière et en respectant son rôle. Comment t'as dit, Céline? Oui. Par un esprit doux et paisible. Par l'amour. L'amour brise des os. Oui. Mm-hmm. Oui. Oui. Ouais. Et je vous ai posé la question d'une façon très charnelle, hein? Comment est-ce qu'on peut changer notre conjoint ou notre conjointe? Et c'est parce qu'on pense très charnellement comme ça, on peut y penser régulièrement. Mais ce que les Écritures nous disent, pour ramener aussi à ton commentaire ce que tu disais, Normande, les Écritures nous disent, si l'autre ne fait pas sa responsabilité, même s'il y en a quelques-uns qui n'obéissent point à la parole, mais que vous soyez soumises à vos maris, parce que pour qu'ils soient gagnés sans parole, par la conduite de leur femme, verset 2, en voyant quoi? Votre manière de vivre. Puis comment c'est quoi cette manière de vivre-là? Chaste et respectueuse. Voilà le caractère d'une femme qui veut se soumettre à son mari, chaste et respectueuse. Quelle parure que Dieu veut qu'une femme recherche? La parure du cœur. Je pense pas que Dieu est en train de condamner la parure extérieure. Mais ce que l'on doit rechercher pour une femme, et j'imagine que ça peut être vrai pour un homme, mais ici c'est dit aux femmes, c'est cette parure-là, intérieure, verset 4, est cachée dans le cœur. Et comme on l'a dit tantôt, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Tantôt, je parlais de guerre et de paix, mais voilà l'attitude que Dieu veut d'une femme de Dieu, d'une femme qui se soumet à son mari, d'une femme qui est chaste, qui est respectueuse, qui a un esprit doux, paisible, et que pour Dieu, ben ça a un grand prix. Ça a un grand prix, cette attitude-là. Oui, Claudette. Oui. 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 Notre propre chair résiste beaucoup à la soumission, à être paisible, mais en Dieu nous transformant, ce que tu dis, c'est que l'Esprit nous transforme puis nous accompagne à avoir cet esprit doux et paisible et à se soumettre aussi. Oui, c'est très bien. Et voilà la façon que Dieu nous donne pour te dire, si tu veux gagner ton mari, même s'il n'obéit pas à la parole, continue de faire le rôle que je t'ai donné. Et pas de vaincre le mal par le mal, mais de vaincre le mal par le bien, par le rôle que je t'ai donné. Oui, Sonia. Ouais. Ouais. Hey. Ouais. Ouais. Ouais, c'est très bien. La soumission va devenir plus facile quand que la confiance va face au Seigneur, que lui peut agir, que lui peut transformer. Et si je crains pour mon mari, qui je pense, peu importe quelle est sa réaction, s'il n'obéit pas à la parole, ça va être difficile. Oui, c'est un très bon commentaire. Merci, Sonia, c'est pertinent. J'avais vu une autre main levée, puis après ça, on va continuer d'avancer. Oui, Pauline. Oui. Oui. Ouais. Ouais. La confiance va aider à la soumission. Oui, certainement. Merci, Pauline. Ouais. Et je trouve que ce que tu es en train de dire, c'est l'attitude que les hommes on devrait avoir face au rôle que Dieu nous a donné, que l'attitude que les femmes devraient avoir face au rôle que Dieu a donné. Dieu nous a donné des belles choses, des beaux rôles, et quand on les accomplit, puis quand on les fait, on a de la joie à le faire aussi, certainement. Merci, Claudette. Il y a une expression qui dit « happy wife, happy life ». La responsabilité d'un homme est certainement aussi une femme heureuse est une vie heureuse. Et la femme contribue au mieux-être aussi du monde entier. Vous allez me trouver un peu mégalomane, là. Mais contribue au bien-être du monde entier en commençant par son foyer, en commençant par son mari et ses enfants. Et je le crois parce que aussi les Écritures le disent. Je vous invite à tourner dans Tite pour conclure le rôle de la femme, puis après ça, il nous restera plus beaucoup de temps à parler pour les hommes. Et évidemment, ce soir, j'avais pas l'intention, j'ai lutté beaucoup, mais j'avais pas l'intention de dire tout ce qu'il y avait à dire sur ce sujet-là, parce que tout le monde est reparti frustré un petit peu, là. Mais au moins, on aura vu des bribes de ce que les Écritures nous disent. Qu'on dise tout ce qu'il y avait à dire ce soir? OK, lisons Tite 2, versets 3 à 5. Tantôt, je disais que chacun d'entre nous, même si on parle de relations conjugales, ça nous concerne chacun d'entre nous. Et voici un exemple aussi. Une personne qui voudrait lire Tite 2, versets 3 à 5, s'il vous plaît. Oui, Danny. OK. Je pose une première question. Quelle est une des premières motivations à la femme d'agir ainsi? Quelle est une des premières motivations à la femme d'appliquer ce que les Écritures disent? On lit ça et puis, évidemment, là, si on place ces versets-là face à la société, ça va être vu comme vieux jeu, hein? Ça ne sera pas très populaire. Mais quelle sera une des premières motivations à la femme qui a une relation avec Dieu, premièrement, de mettre en pratique son rôle? Claudette, après ça, Jean-Pierre. Alors, pour toi, oui. Alors, tu es en train de dire, pour toi, d'une femme qui a eu beaucoup d'expérience, que tu peux véhiculer l'expérience que tu as eue, par exemple, à des plus jeunes femmes, et puis d'avoir cette joie-là de transmettre ce que Dieu t'a enseigné. Ça serait une des motivations. Oui. 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 Merci, Claudette. Jean-Pierre. Ouais. Ils vont avoir les fruits, ils vont avoir les preuves, ils vont voir que ce que Dieu demande et qui est mis en pratique réussit aussi. Et verset 5, je vais juste répéter la fin, qui est vraiment aussi la clé de la motivation pour une femme, je pense, à mettre en pratique son rôle. La fin du verset dit « Afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. » afin que la parole de Dieu porte ses fruits, que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Et quels sont les rôles qui sont donnés ici aux différents groupes de, aux différents groupes d'âge? J'en avais entendu un autre commentaire tantôt, puis après ça, on va lire un autre texte. OK? Ouais. Oui. Alors, les personnes plus matures peuvent communiquer aux personnes plus jeunes. Et c'est ce que Dieu est en train de dire. Dit, verset 3, dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées aux excès du vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à quoi? À aimer leur mari. Et leurs enfants, tantôt je disais que la femme va contribuer au bien-être du monde entier, mais elle va aimer son mari, elle va aimer ses enfants aussi. Et puis ce foyer-là qui va être certainement très influencé par la femme, mais va en tirer profit. Ce matin, je vous posais la question, est-ce que la paix est dans mon foyer? Est-ce que les gens qui vivent dans mon foyer sont en paix aussi, sont bien? Et je crois, évidemment, on va parler de l'homme, là, mais je crois que la femme a cette responsabilité-là, de, avec l'expérience qu'elle a acquise, de pouvoir renseigner les jeunes femmes et de la jeune femme aussi, de mettre en pratique cet amour-là envers son mari, envers ses enfants. Et la soumission, je voulais juste dire quelques éléments de ce que la soumission n'est pas. La soumission, premièrement, n'est pas uniquement que pour la femme. Hein. En d'autres occasions, l'homme a à se soumettre aussi, par exemple, aux autorités, par exemple, à se soumettre les uns aux autres. Et sans nécessairement élaborer plus longtemps, mais on ne peut pas attribuer uniquement à la femme. On peut sortir du contexte de soumission, de sortir de relations conjugales. L'homme aura à se soumettre en d'autres occasions aussi. Et c'est une attitude que la femme et l'homme doivent entretenir. La femme n'est pas un esclave ou un être, et là vous allez comprendre ma phrase qui va aller avec le sens de ce qu'on voyait ce matin, ou un être satisfaisant les désirs des hommes. Hein? À Suréus ce matin, c'était ça. C'était, il y avait un désir simplement charnel, et puis de vouloir présenter sa femme qui était belle de figure, puis on va la faire parader, puis c'est la dernière journée du party. Mais cet homme-là avait mal agi envers sa femme. La femme n'est pas inférieure. On a parlé tantôt de ce qui nous est donné dans les Écritures de l'égalité entre l'homme et la femme. Et je crois que ce qui va renchérir par-dessus ce thème-là de la soumission de la femme envers l'homme, c'est l'exemple que Dieu nous a donné de Jésus avec son Père. Et est-ce que Jésus est inférieur à son Père? Non. Quelle attitude Jésus avait de soumission envers son Père? Il était soumis. Ouais. Quel bon exemple qu'on pourrait citer, l'exemple de soumission de Jésus envers son Père? De transmettre le message que Dieu voulait qu'il emmène, faire la volonté de son Père. Ouais. Alors, il y avait une relation intime entre Jésus et le Père. Et on peut faire cette relation-là parce que les Écritures nous la donnent aussi. Je le disais ce matin, Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de l'homme. L'homme est le chef de la femme. Et bien que Dieu soit le chef de Christ, Christ n'est pas inférieur, bien qu'il s'est soumis à son Père. Alors, et qu'est-ce que la soumission n'est pas? Que la femme n'a pas droit de parole, n'a pas droit de parler, ou qu'elle ne peut pas utiliser ses capacités intellectuelles, ses dons ou ses talents. Ce n'est pas de la soumission non plus. Je voulais juste vous citer rapidement avant qu'on continue avec l'homme. Hey boy. Proverbe, je vais juste vous citer Proverbe 31, 10 à 12. « Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari, c'est cette phrase-là que je trouvais intéressante, le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. » La femme vertueuse a cette attitude de faire du bien tous les jours de sa vie à son mari et non du mal. Et quelle réaction est-ce qu'il y a aussi de la part du mari envers sa femme? Une pleine confiance. Une confiance, une relation de confiance. OK, on revient dans 1 Pierre 3. Pierre 3, verset 7. Je vais distribuer quelques textes, OK? Je pense qu'on va en lire parce que je ne veux pas vous retenir jusqu'à 8h30. Je vais distribuer quelques textes. Une personne qui voudrait me lire... Je vais distribuer juste deux textes. Une autre personne qui voudrait me lire Galates 3, versets 27 à 29, s'il vous plaît. Galates 3, 27 à 29. OK, René. Avant, on va lire le verset 7 pour un Pierre. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme comme avec un sexe plus faible. Honorez-la comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. René, est-ce que tu veux lire? Oui, Danny, tu veux déjà réagir? Oui, je sais, parce que je sais c'est où que ça accroche. Vas-y. Ouais. C'est bien. C'est bien. Mais j'ai un exemple aussi qui est pas pire. Puis je vais vous montrer la façon que je vais le décrire, OK? Avant, j'aimerais que, René, tu veux-tu lire Galates 3, 27 à 29? OK. Et on aurait pu utiliser ce texte-là tantôt pour parler de l'égalité entre les deux. Mais je veux faire retenir votre attention sur que, justement, dans la foi que l'on a héritier, on est l'homme et la femme héritiers de ce que Dieu veut nous accorder. L'homme et la femme sont héritiers. Et pour la Nouvelle Alliance, pour les temps d'aujourd'hui, c'est quelque chose de bien différent. Dans l'Ancienne Alliance, pendant plusieurs années, l'héritage se transmettait du père en fils. Et si le père décédait, la mère restait en vie. Mais l'héritage, c'est pas comme de nos jours que si je décède, ben tout va à ma femme, mais mon héritage ira à mes fils. Mais ce que l'on a dans cette nouvelle alliance-là, c'est cet héritage qui est donné autant à la femme, autant aux juifs, autant aux grecs, autant à l'homme, et il n'y a plus de distinction entre chacun d'entre eux. Je vais lire ça parce qu'il se va, il se joint aussi à ce qu'on vient de lire au verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme. Ça veut dire quoi d'une façon pratique? Arrêtons-là pour l'instant, là. Je sais qu'on va aller un petit peu plus loin tantôt avec l'histoire du sexe plus faible, là. Mais ça veut dire quoi d'une façon pratique que d'avoir de la sagesse dans nos rapports avec notre femme? Oui, Jean-Pierre. Ouais. Ouais. Avec user de sagesse, ça va pas seulement en action des choses que je fais pour ma femme, mais ça va être une attitude aussi, de prendre soin. Quoi d'autre? Ça se met comment en pratique? Je vais prendre quelques commentaires, là. Je sais que le temps passe vite, mais je vais prendre quelques commentaires. C'est quoi en pratique d'avoir de la sagesse avec ma femme, dans les rapports avec ma femme? Oui, Pauline. Être délicat. Ouais. Ouais, OK. Délicat, tendre. OK, Yvan. Ghislain, tu avais levé la main. Après ça, Joanie. Mm-hmm. Sinon, Oui. Dieu me donnait un rôle de direction, un rôle de leadership, et d'user de ça avec sagesse, de reconnaître la direction que Dieu veut que je prenne. Et tantôt, on parlait de crainte, de la femme envers son mari, peut-être. D'user de sagesse serait aussi peut-être de gagner la confiance de ma femme, de la sécuriser aussi, de l'amener avec moi, de la diriger avec moi. Un peu comme un berger, j'imagine, qui dirige, qui prend soin, qui conduit. Son épouse et son foyer aussi. Oui, c'est un bon commentaire. Il y avait Joanie, puis après ça, René. Oui. Alors, un leader n'est pas nécessairement intransigeant face aux besoins des autres, mais va considérer les intérêts des autres aussi pour le bien-être aussi de son foyer. Oui, René. Oui. 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 Oui, c'est ça. Montre-la ta sagesse, c'est ça. Qu'elle soit manifeste. Il y avait une autre main levée. Il y avait Sonia, mais après ça, Pauline, je pense. La réflexion. Oui. Que l'homme prenne le temps de réfléchir sur son rôle qu'il a puis les décisions qu'il a à prendre aussi. Oui, c'est très bien. Pauline, après ça, on continue d'avancer. Oui. Ouais. Ouais, la sagesse, la délicatesse, et puis de donner, comme je disais tantôt, la soumission n'est pas de pas laisser la femme, par exemple, user de ses capacités, de ses dons, de ses talents, de ne pas la museler, mais de lui donner la capacité aussi, le potentiel que de pouvoir aussi le faire. Cette femme vertueuse qu'on voit dans le Proverbe 31, elle est très active. Elle est très au-devant de la tâche et puis des gens aussi. Et elle a la confiance des gens aussi. Et parce qu'elle a la place aussi pour le faire. OK, je m'en allais quasiment passer tout droit. Hein, je pense ici que l'expression qui nous est donnée, comme avec un sexe plus faible, est l'image d'un vase. Je vous donne ma compréhension de la situation. Imaginez que vous avez à la maison, on va matérialiser un peu l'idée. J'ai pas amené de vase, mais j'ai une guitare là, que j'ai à la maison. J'ai des enfants, j'ai 3 jeunes enfants. Et puis ma guitare, si je la mène comme ça, et puis je la mets sur la table de cuisine, mais je sais qu'à un moment donné, elle va tomber en bas de la table de cuisine. À un moment donné, il y a une corde qui va casser. À un moment donné, il y a le manche qui peut casser. Et très rapidement, elle va être brisée. Et puis ma guitare, si je la prends, et c'est pas parce qu'elle n'a pas de valeur, c'est pas parce qu'elle est faible, et puis c'est pas parce qu'elle est, elle est pas bonne, c'est parce que j'en prends soin. C'est parce que je l'aime. C'est parce que je veux y faire attention. Et puis je vais la prendre, puis je vais la placer dans un endroit pour la protéger. Pour je vais même la placer, prenons l'exemple d'un vase qui est beau, qui est de grande valeur, que j'aime beaucoup, mais je vais le placer en hauteur aussi, pour s'assurer que rien lui arrive, et même pour m'assurer qu'il soit à la vue, pour qu'il soit exposé dans un sens, qu'il soit valorisé. J'ai employé un autre mot que Pierre utilise lui-même, pour l'honorer, pour l'élever, honorer sa femme. Et ça, c'est pas parce que la femme est un sexe plus faible au premier degré, si on prend ça comme ça, mais parce que la femme est une personne que Dieu a donnée à l'homme qui est de grande valeur, que l'homme a comme responsabilité que d'être sage avec, de faire attention de ne pas exposer sa femme comme Assuérus ce matin, ou bien peu importe quel est l'exemple que l'on peut donner, l'homme va faire attention à sa femme. Il va s'assurer de ne pas la placer dans des circonstances qui vont être dommages pour elle. Il va la protéger et même, il va l'élever, il va l'honorer. Et ça, c'est le rôle de l'homme. Et si je relis le verset 7, « Montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports, comme avec un sexe qui est de grande valeur, une femme qui a de grande valeur, honorez-la, élevez-la, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. » La femme que j'ai va hériter de la même grâce que moi. Elle n'a pas un héritage un peu moindre. Je vais l'élever, je vais en prendre soin et je vais l'honorer. Je vais montrer de la sagesse avec elle parce que je veux la protéger. Et qu'il en soit ainsi. Et je trouve que, ça ne sera pas long, Rachel, je trouve que l'élément ici, puis je l'avais cité il y a quelques semaines, nos relations terrestres affectent directement notre relation avec Dieu que l'on a. Et le texte ici est clair, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. La relation que j'ai avec ma femme, la façon que j'en prends soin, la façon que je vais l'honorer, que je vais la chérir, que je vais, comme je dis, en prendre soin, mais ça va me donner aussi un accès à Dieu où ce que Dieu va pas me dire, David, t'es reprochable dans tes agissements, dans tes relations même sur la terre aussi. Mais il va voir que je mets en pratique le rôle que lui veut me donner. Et un rôle, je termine avec ça, vas-y Rachel. Ouais, exactement. Ouais. Ouais, ce commentaire est très pertinent. Parce que si la femme de cœur, elle se soumet, si la femme de cœur, elle pratique la soumission face à son mari, elle s'abaisse devant son mari et que le mari, lui, la prend puis l'élève, mais quelle joie pour la femme que de se soumettre à son mari qui va l'élever par après. Et là, la paix, comme tu dis, à un moment donné, les deux s'enchaînent. L'homme, quand il sait qu'il peut user de son rôle, sans être constamment confronté avec sa femme à ce qu'il veut prendre sa place, même quand que les deux jouent leur rôle, mais ça va bien et c'est la paix. À l'inverse, c'est la même chose. Un rôle, ça se respecte pour soi-même, ça ne s'impose pas. Je ne peux pas dire à ma femme, soumets-toi. En fait, ce que les Écritures disent, c'est « Femmes, soyez soumises. Marie, montrez de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. » Le message est pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas « Marie, soumettez vos femmes. » Ce n'est pas « Femmes, faites aimer vos maris. »« Faites-vous aimer de vos maris. » Ça pourrait être aussi, là, mais c'est chacun pour soi dans son rôle que Dieu veut que l'on fasse et puis pour que ça fonctionne bien. Je vous laisse avec ça parce qu'il est 8h, puis je veux juste vous dire, on peut partir juste avec une question rhétorique, chacun pour soi. Qu'est-ce que Jésus a fait pour nous? Qu'est-ce que Jésus nous a donné? Éphésiens 5 est clair en disant que ce type d'amour-là, l'homme doit reproduire cet amour-là que Christ a eu pour l'Église, en se sacrifiant pour elle, en cherchant à la purifier, en la gagnant. Et puis, alors, qu'est-ce que Dieu a fait pour nous? Et ça devrait nous amener aussi à réfléchir. Voilà le rôle en tant qu'homme que j'ai pour ma femme aussi, que d'aimer ma femme comme Christ a aimé l'Église. Et de remplir ça. Bon, arrêtons-là pour l'instant. On va terminer avec un mot de prière que Dieu nous aide à continuer d'avancer justement dans la pratique de ce qu'il nous demande. Seigneur, on vient devant toi encore pour te louer parce que ta parole, Seigneur, c'est la... En les mettant en pratique, c'est la vie, Seigneur, qu'on peut goûter. Tu nous as donné des choses, pas pour nous restreindre, pas pour nous rendre la vie plus difficile, mais pour qu'on ait la vie plus facile, Dieu. Tu nous as révélé l'état de nos cœurs, tu nous as révélé nos agissements et tu nous donnes des moyens aussi pour en sortir. Tu nous donnes des moyens pour qu'on ait des vies joyeuses, Seigneur, avec l'homme ou la femme que tu as placé près de nous ou que tu vas placer près de nous. Et Seigneur, chacun d'entre nous, tu nous donnes des rôles, tu nous donnes des responsabilités, soit à communiquer les bienfaits que de remplir les rôles, soit de chacun d'entre nous, de, en tant qu'homme, Seigneur, de montrer de la sagesse avec notre femme, de l'honorer, et pour la femme, Dieu, de se soumettre à son mari. Ces choses-là sont difficiles, Seigneur, parce qu'on est attaché souvent à notre propre chair, mais en même temps, on veut s'engager avec toi, parce que c'est premièrement à toi qu'on se soumet, c'est premièrement à toi qu'on veut obéir et respecter ce que tu nous demandes. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ qu'on te prie ces choses. Amen.